Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 décembre. Nous préparons à célébrer l'Immaculée Conception. Ça sera lundi, puisque le 8 tombe un dimanche. L'Immaculée Conception, on pourrait dire que c'est un petit peu loin de nous. Au contraire, l'Immaculée Conception rend la Sainte Vierge beaucoup plus proche de nous. Parce qu'en elle, l'amour est pur. Donc elle est très proche de nous. Et nous savons que nous aussi, nous sommes appelés à être immaculés, comme la Sainte Vierge. J'espère que nous y croyons. C'est le début de la lettre aux Éphésiens. Nous avons été choisis dès avant la fondation du monde pour être saint et immaculé en sa présence, présence de Dieu. Alors, ayons un peu d'ambition, parce que autant devenir saint et immaculé ici-bas, plutôt qu'au bout de je ne sais pas combien de temps, de purgatoire. Voilà. Alors, quel rapport avec la délivrance ? Nous y reviendrons plus tard, mais ce qui fait que nous avons besoin de délivrance, c'est notre péché, d'accord ? Soit c'est notre péché à nous, soit c'est le péché de nos ancêtres qui ont fait des alliances avec l'ennemi. Soit c'est le péché de personnes qui nous entourent et qui font de la magie, de la sorcellerie, des choses comme ça. Il y a trois portes ouvertes pour les infestations dans nos vies. Il y a aussi bien sûr des facteurs, on va dire, aggravants. Facteurs aggravants, vous en avez cinq. C'est la blessure, les blessures d'enfance, qui fait que notre position spirituelle est faussée. Par exemple, nous avons décidé d'être toujours une victime à cause de nos blessures d'enfance. Il faudra travailler ça, parce que ça, c'est une auto-malédiction. Ensuite, vous avez la médiumnité naturelle, de naître avec cette médiumnité. Et il suffit que vous vous branchiez dans votre esprit sur une source pas très claire. Si vous êtes dans la médiumnité, eh bien, vous êtes comme une lampe qu'on branche sur circuit. Nous avons accompagné une personne qui rentrait dans des états même extérieurs abominables. Elle crachait, elle remplissait des seaux, etc. Parce que, en fait, elle se branchait sur l'ennemi invisible pour faire des prières elle-même. Et puis voilà. Donc c'est auto-entretien. Ça, c'est la médiumnité. On en reparlera une autre fois. Dans les facteurs aggravants, vous avez les modifications des états de conscience, à travers la drogue, l'alcool, par exemple, ou l'hypnose. Vous avez aussi les troubles psychologiques ou psychiatriques, ce qui fait qu'on sera très très prudent pour prier pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques, puisque là aussi, il y a un phénomène, la porte reste ouverte si vous voulez, donc on peut chasser les mouches, mais elles reviennent tout de suite. Donc il faut déjà traiter la question au niveau médical. Et puis enfin, c'est la persistance de schémas mentaux négatifs ou d'habitudes pécamineuses. Alors aujourd'hui, nous allons parler plutôt de la source, c'est-à-dire de la source de la principale porte ouverte aux infestations, c'est-à-dire du péché. Et il y a un point majeur donc à dire tout de suite, c'est que le premier exorcisme, c'est la confession. Alors, demandez pas au prêtre des prières de libération. Hein. Vous allez voir le pauvre père. Le pauvre, il n'est pas pauvre. Mais vous comprenez. Vous allez vous confesser. Vous n'allez pas demander en plus, ah, père, est-ce que vous vouliez faire une prière d'exorcisme? Non, c'est pas le moment. Sinon, en plus, on y est demain matin. Mais croyez et croyons que ce sacrement est le premier exorcisme. J'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone une personne, je l'ai invitée ici, peut-être qu'elle est là, et ça fait plus de X années qu'elle s'est fait confesser, et elle sent des choses en elle. Bon, je lui ai dit, confessez-vous, après on verra. Alors attention, c'est pas magique hein, la confession. Je vais faire une bonne confession, on va essayer ici de... Eh bien, de demander au Saint-Esprit de nous éclairer pour que nous puissions faire une bonne confession. Alors, déjà, parlons du péché et du pardon. C'est vrai qu'on a du mal à parler du péché, parce que le péché, on se dit autant parler de choses positives, quoi, et on a raison. Mais on est dans le temps de l'Avent, qui est un temps aussi... de conversion, c'est-à-dire que Dieu vient dans les ténèbres à Noël. Il vient dans les ténèbres. Et c'est le texte qu'on va lire le jour de Noël, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu l'atteindre. Alors, si spirituellement vous vous sentez dans les ténèbres pendant le temps de l'Avent, j'allais dire, c'est bon signe. Puisque parfois Dieu permet que nous nous sentions dans les ténèbres pour que nous puissions vraiment crier vers lui. Alors, déjà, première remarque, quelques remarques préliminaires avant de rentrer dans le détail. Le péché n'est pas une faute morale. Le péché est à distinguer de la faute morale. La faute morale, c'est que vous avez un code de bonne conduite et puis vous avez coché des cases où vous avez fauté par rapport à un code de bonne conduite. Ne réduisons pas la loi de Dieu à un code de bonne conduite. La loi de Dieu est une alliance avec Dieu. Donc, le péché est une rupture d'alliance avec Dieu. En conséquence, il y a un problème au niveau moral, évidemment. Mais ne parlons pas de l'inverse. On va parler de péché mignon, non, ça c'est plus un péché, non. Laissons ces considérations de morale à qui ça intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire alliance avec Dieu. Je cite le Saint Curé d'Ars, « Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu lui-même qui court après le pécheur » et qui le fait revenir à lui. Sa patience nous attend. Alors attention, donc, comment y voir un peu clair avant la confession? Eh bien, prions le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut découvrir son péché en réalité que dans le Saint-Esprit. Saint Isaac le Syrien, depuis quel siècle, hein? Vous voyez, 8e siècle, 7e, 8e, bon, a dit « Celui qui voit son péché est plus grand que celui qui ressuscite les morts. » Donc, quand vous avez du mal à voir votre péché et quand vous allez vous confesser, vous êtes dans le sujet. Donc, tout va bien, rassurez-vous. Le but, c'est pas forcément d'avoir une liste maison. C'est quand on était petit, on avait des listes. Et puis, on rajoutait dans les listes. On disait, ce ne sera pas assez long. Non. Vous savez, Jean-Paul II se confessait tous les jours. Un certain nombre de saints comme ça qui se confessaient tous les jours. On pensait bien qu'il y a le péché, effectivement, qu'on peut nommer, puis il y a tous nos péchés d'omission. Nous n'avons pas assez aimé. C'est de l'ordre du péché. Donc on peut y aller tous les jours. Pardon Seigneur pour tous les manques d'amour. Voilà. Mais, alors attention, lorsque nous faisons notre examen de conscience, parfois nous avons des blocages. Vous savez, dans la tradition catholique, on fait son examen de conscience tous les soirs. Puis on se dit, oh, c'est trop triste de faire un examen de conscience, c'est négatif, c'est culpabilisant, enfin, vous voyez, ce genre de... Ça veut dire que si on le fait effectivement sous son propre regard, eh bien, on peut rentrer dans une attitude effectivement d'auto-jugement et qui ne nous fera pas du bien. Mais si nous sommes devant Dieu, quand Dieu pardon, voit le péché, il nous révèle certains travers, c'est pour nous guérir. C'est Saint François qui disait que il nous faut apprendre à voir le mal et la faute comme Dieu les voit. Car là où nous voyons naturellement une faute à condamner ou à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Le Tout-Puissant est aussi le plus doux des êtres, le plus patient. Sainte Catherine de Sienne, je veux bien que tu vois ton néant, ta négligence, ton ignorance, mais je ne veux pas que tu les vois dans les ténèbres de la confusion, mais à la lumière de la bonté divine que tu trouves en toi. Voilà. La meilleure façon de se préparer à la confession, c'est donc d'invoquer le Saint-Esprit pour que il puisse nous dire, voyez, où est notre péché. Voilà. Alors, il nous faut beaucoup d'humilité, évidemment. L'humilité, dit la Thérèse d'Avila, c'est la vérité. La vérité, dans le sens, oui, je reconnais mes faiblesses, mes fautes, etc. Non seulement devant Dieu, mais devant les autres, sans hésitation. Mais je reconnais aussi mes points forts de la fausse humilité où on se traîne dans la boue et point final. C'est de l'orgueil, évidemment. Alors, le péché lui-même, il y a un aspect actif et un aspect passif. Il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner le péché. Premier mot, c'est le mot « chet ». C'est l'idée de manquer la cible. Vous savez, quand on tire sur une cible avec une flèche, simplement on manque la cible. Vous savez que le mot « Torah » en hébreu vient de l'hébreu « yara ». Yara. Et le mot « yara » signifie justement « direction ». Direction. Et on comprend pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin. La loi de Dieu n'est pas un règlement, c'est le mode d'emploi de la vie. « Fais ceci et tu vivras », dit Jésus au jeune homme riche, par exemple, et au scribe qu'il avait interrogé. Ça, c'est le premier aspect. On manque le but, et ça, c'est une désobéissance. Dieu a dit ça, et bien moi, je décide autre chose. Il y a un deuxième aspect, le mot hébreu « avon », qui veut dire « tordre ». On tord les choses. C'est en fait le mensonge de l'ennemi. Vous vous rappelez qu'au jardin d'Éden, Dieu avait dit à l'homme « tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ». Tous les arbres, sauf un. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand vient le serpent, il dit, Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres. Il n'avait pas dit ça. voyez le mensonge subtil. Voilà. Et puis après, autre mensonge, parce que le premier mensonge du démon, c'est « Vous ne mangerez, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Vous voyez comment il ment. Et ça, c'est intéressant de voir que nous, dans nos vies, le mensonge, c'est pas forcément dire l'inverse de la vérité. C'est d'insérer une partie de torsion, de distorsion, qui fait que l'ensemble est tordu. Très bien. Et le troisième aspect du péché, c'est la rébellion. Pécha, en hébreu, c'est l'opposition à la volonté sainte. Une rébellion, une révolte intérieure. Et cette révolte peut monter en nous, notamment dans l'épreuve, dans la souffrance. On est en colère. Et éventuellement, on va lâcher Dieu. Retourner nos icônes, etc. Bon, et puis finalement, un autre aspect du péché, en hébreu « chaga », qui désigne l'égarement. On est complètement perdu. On ne sait pas où on va, à quoi je sers, à quoi ça sert, tout ça. On est perdu. Et ça, c'est l'aspect, on va dire, actif du péché. Mais il y a aussi un aspect passif. Nous sommes pécheurs. Pécheur, ma mère m'a conçu. C'est une position, vous voyez, qui va trouver aussi son explication en dehors de nous, le péché originel. L'une des trois malédictions qui reste du péché originel, c'est la tendance au péché. Romains 7, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Il y a un aspect passif, et effectivement on a besoin d'être sauvé. Parce qu'on aura beau faire toutes les assises, tous les exercices, possibles et imaginables, pour être meilleur, il reste l'aspect passif. Et si Dieu ne vient pas transformer nos cœurs, alors il ne se passe rien. Nous sommes toujours au même point. Alors Dieu, bonne nouvelle, nous pardonne, c'est toujours à son initiative d'ailleurs, et son pardon est un oubli, il oublie notre péché. Je ne sais pas si vous avez entendu des témoignages de personnes qui ont vécu soit une expérience de EMI, de vie après la vie, ou une expérience de ravissement de leur vivant, comme Raniero Restrepo. On en a peut-être parlé ici, Raniero Restrepo. Vous pourrez voir sur Internet. Il fait un tour en ciel, en purgatoire, en enfer. Et les gens qui vivent ça, ils disent qu'il y a le film de leur vie. Et ils disent tous, tout ce qui a été confessé, c'est absent du film. Dieu a oublié. Donc, rassurons-nous. Le pardon de Dieu fait ce qu'il dit. Je te pardonne. Il oublie. Et non seulement il oublie notre péché, mais il va changer nos cœurs. Hébreux 10, versets 16 et 17. « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées. Je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » La preuve. Voilà. Les prophètes, Jérémie et Isaïe, avaient annoncé ça. Jérémie 31, « Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. » Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. » J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Dieu accueille toute personne qui se tourne vers lui. en vérité. Voilà. La petite Thérèse, à la fin de sa vie. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Là où le péché surabonde, la grâce surabonde. Voilà, donc, allons-y, n'ayons pas peur. La préparation à ce sacrement, on va aller vite, pour le début en tout cas, c'est d'abord un désir de conversion. Si on va juste se confesser parce que j'ai décidé de me confesser une fois tous les X temps, et que ça ne change rien dans ma vie parce qu'au fond, je n'ai pas décidé de changer, bon, on peut essayer de travailler ça. On a beau dire, mais vous savez, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis, tout ça, c'est plus fort que moi, ok. Mais si c'est le cas, posons-nous la question, est-ce que nous avons vraiment décidé la conversion ? Ou nous sommes dans une religion formelle ? Je vais à la messe tous les dimanches, je me confesse une fois toutes les... formel, formaliste. Il n'y a pas de décision intérieure, d'alliance avec Dieu. Oui. Travaillons ça. Deutéronome 35 et suivant. Voilà, choisis donc la vie, parce que devant toi, il y a la vie ou la mort. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Décidons-nous. Et en fait, vous voyez, la prière de Notre Père est aussi une décision. Si nous prions Notre Père très tôt le matin, mettons, que ta volonté soit faite, c'est une décision ou pas ? Parce que ça peut être un vœu pieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, machin, machin, et en fait, ça nous glisse comme sur les plumes d'un canard. Mais si on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, on se met à genoux et on dit, Seigneur, moi je veux ta volonté et pas la mienne. Parce que c'est un acte d'amour. Jésus qui est parfait, qui est le Saint des Saints, à Gethsémani, il dit non pas ma volonté mais la tienne. Pourtant sa volonté elle est plus que sainte. Et bien, il va dire non pas ma volonté mais la tienne parce qu'il y a un échange d'amour. C'est comme ça qu'il faut que nous le comprenions. Il nous aime tellement. Nous voulons vivre dans cet amour. Dans cet amour du cœur même du Père qui nous est révélé dans le Fils. Alors, Père qui est aux cieux, eh bien que ta volonté soit faite. Il faut moi la grâce de ta volonté. Vous voyez comme c'est important. C'est une décision aussi. Dieu fait le reste. Mais il nous demande de décider. Alors vérifions que nous avons bien décidé. D'accord ? Je décide par exemple de pardonner. Même si je sais très bien que ça sera difficile. Oui, mais Dieu va le faire. Il nous demande juste de décider. Fais ceci et tu vivras. Vous voyez, Luc 10, c'était le docteur de la loi. Pas le scribe, c'est un docteur de la loi. Bon. On se met en présence du Saint-Esprit parce que, je répète, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner les lumières adéquates. Parce que vous avez aussi les lumières de Satan, l'accusateur, qui va vous montrer du doigt, qui va vous accuser jour et nuit. Apocalypse. Alors, lui, on n'en veut pas quand on va se confesser. Mais on veut demander la pure lumière de Dieu. Jean 16, quand il viendra, le Saint-Esprit, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. il établira la culpabilité, vous voyez, dans le Saint-Esprit. Et ça sera toujours pour une guérison, pour aller nous repêcher. Je vous ferai pécheur d'homme. Dieu nous pêche. Il nous retire spirituellement du monde pour que nous puissions rester dans le monde. Nous soyons dans le monde, mais pas du monde. Voilà ce que Dieu fait. Alors, l'examen de conscience. Eh bien, on va se rappeler la parole de Jésus. Les pharisiens qui se réunissent autour de Jésus et lui demandent pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Il cite Deutéronome 6, « Shema Israël, Adonai Elohim. » Voilà. Voilà le plus grand et le premier commandement. Il continuera en disant que le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, eh bien, ils ne font qu'un, ces deux commandements. Alors, on va commencer par le premier commandement. Premier commandement, dans les 10 commandements, « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Exode 20, verset 2. On traduit aussi en disant « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. » Alors, la question, si nous voulons examiner nos vies à la lumière de ce commandement, « Dieu est-il le centre de ma vie ?» Ou est-ce que je réserve Dieu pour certains moments de mes journées ou de ma semaine? Ou je vais dire, oui mon père, je vais à la messe tous les dimanches. Point. Moi, quand je confesse des enfants, je leur dis toujours, est-ce que tu pries bien tout de suite pour commencer ta journée? Souvent, ils ne le font pas. Vous le faites? Faites-le. Alors je dis au petit qui m'a dit bon non, non. Dis quand tu vas ta maman, tu lui dis bonjour ou pas? En général, il dit oui, je dis bonjour. Bah alors pourquoi tu n'as pas dit bonjour à Jésus? Tu dis que tu l'aimes plus que tout, d'accord? Tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Et le matin, tu commences tes journées comme ça en flèche. Combien de temps tu passes dans la salle de bain? Combien de temps tu passes dans la cuisine à prendre ton petit déjeuner? Essaie de faire le calcul. Et combien de temps tu passes avec Dieu? Bon. Alors moi je rêve aussi le dimanche d'un nouveau ministère vélo et prière. C'est-à-dire qu'on va à la messe en vélo. Bon, il faudrait juste mettre des douches à l'entrée des églises. Voilà, parce que Saint Paul dit à Timothée que l'exercice physique sert à peu de choses. Il en faut un peu, hein, mais à peu de choses, il dit. Exerce-toi plutôt à la piété. Voilà. Alors, est-ce que je donne du temps à la prière? Déjà, soyons concrets, le matin, le soir, combien de temps? Est-ce que je néglige la prière de louange? Parce que c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, dire merci à Dieu, c'est un peu difficile. Mais pourtant, l'Écriture nous dit, vous connaissez tous, hein, alors, c'est des classiques du renouveau charismatique. Philippiens 4.4, vous connaissez tous Philippiens 4.4, 1 Thessaloniciens 5.16, pas besoin de vous le dire, hein. Et puis Romains 8.28. Allez, on y va. Philippiens 4.4. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Intéressant, non ? La vraie prière chrétienne, c'est pas de dire « Ah Seigneur, moi je voudrais ça, 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 ça et ça », mais prier et supplier tout en rendant grâce. « Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Je te bénis pour ta bonté. » Jésus nous le dit. Lorsqu'il dit « Lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà obtenu. » On va dire « Merci ». Et si nos prières ne sont pas pénétrées de merci, vous voyez, ça devient en fait un peu usant, hein, la prière. « Ah Seigneur, je te demande, je te demande, je te demande. Ben, » Je me rappelle ces amis dont le fils était complètement dans la drogue. Il tournait mal, il avait 17 ans. Et voilà, les parents ne savaient plus quoi faire. Et pourtant, ils priaient, quoi. Et donc, on a vu ensemble, ben, on va faire un Jéricho. Jéricho, hein. C'est-à-dire louer le Seigneur pendant 9 jours, hein, enfin, 7 jours. Bon. Et ça a duré peut-être un peu plus de 7 jours, mais leur enfant a été complètement transformé. C'est comme ce couple. Bon, je vais le raconter sans doute, cette histoire-là. C'est des personnes que j'ai mariées il y a un certain temps maintenant. Et les 5 premières années de leur mariage, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Tout était normal pourtant. Et en fait, pendant une retraite, d'ailleurs avec le père de Michel Bacher, on leur a dit « Arrêtez de prier comme vous faites ». Rendez grâce. Ben, figurez-vous que 9 mois pile poil après, il y avait la naissance. Et un an pile poil après, c'était le baptême. Bon, alors voilà. Avis aux amateurs. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Vous avez bien entendu ? En toutes circonstances. Vous venez de recevoir une tuile, rendez grâce. Ben oui, parce que Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne laissez pas au démon le plaisir de vous enfermer dans la désespérance, parce que Dieu est tout puissant. Et Dieu se sert aussi de tout événement, même négatif. Sinon, il ne serait pas Dieu. Ce ne serait pas Dieu. La question de où est Dieu quand tout va mal. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand il n'y a plus aucun espoir, quand c'est la souffrance pure, il nous reste la passion de Jésus qui, lui, a traversé. Il est passé, il a fait sa Pâque. Et avec lui, nous faisons notre Pâque. Et si nous sommes dans la souffrance, lui, il nous permet de passer sur l'autre rive. Voilà. Alors, très important ça. Est-ce que, donc, j'ai confiance, la foi ? Est-ce que je suis plein d'espérance, la joie ? Si ce n'est pas le cas, essayons de bien nommer. Parce que chaque péché est aussi une alliance avec un démon, vous savez ça. Donc, stop avec ce genre d'alliance. Vous me direz, mais oui, mais moi je suis dépressif, etc. Ne confondons pas la tristesse psychologique avec la tristesse spirituelle. Ce sont deux choses différentes. Je peux être malade, et parce que je suis malade, je suis triste, oui, c'est physique ou psychologique. Mais dans mon cœur, il y a la joie. C'est ce que dira la petite Thérèse à la fin de sa vie. Et Dieu sait combien elle a souffert. C'était une histoire de fou. Mais elle dira, vous direz bien à tout le monde là, que j'ai trouvé la joie dans la souffrance. Parce que c'est inaudible pour nous, je suis bien d'accord avec vous. Mais elle, la grâce qu'elle a eue, c'est quand elle était dans cette souffrance abominable, d'être unie à Jésus, même si elle ne le sentait pas. Et là, elle avait la totale conviction que des âmes étaient sauvées. Puisque c'était l'image qu'elle avait eue dès 14 ans, vous vous rappelez, elle est dans la cathédrale de Lisieux, elle a reçu sa grâce de Noël qui était une effusion du Saint-Esprit 6 mois avant, ou 7 mois avant, et puis elle voit une image du crucifix avec Marie-Madeleine au pied. Et elle comprend que Jésus dit « j'ai soif » et que le sang coule et il n'y a personne pour le ramasser. Elle dit « moi je veux être là pour ramasser le sang de Jésus et le répandre sur les âmes ». Elle a compris en fait ce ministère marial. Marie est au pied de la croix avec Jean. Et nous allons aussi être au pied de la croix. Et qu'est-ce qui fait, comment faire pour répandre le sang de Jésus sur les âmes? C'est très clair dans l'enseignement de Thérèse. 1. La prière. 2. Le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas forcément que ce qui est désagréable quand on va vivre avec Dieu, l'agréable aussi. Nous devenons sacrifice, sacrum facere, c'est-à-dire nous ne sommes plus des êtres profanes. Nous sommes des êtres livrés à Dieu. Romains 12. Faites de vos personnes des offrandes. Alors évidemment, quand on souffre, c'est le moment ou jamais aussi. Quand on dit offre-le, Seigneur, je t'offre, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Seigneur, je m'unis à toi, parce que la passion de Jésus a une valeur éternelle. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Alors, toujours dans ce premier commandement, on n'arrivera pas à avoir les 10 commandements aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'il m'arrive de, finalement, vouloir mettre Dieu à mon service? Vous savez, un peu une attitude de magie. On y reviendra tout à l'heure. Quand j'étais dans la paroisse d'Arthez de Béarn, j'ai rencontré des gens qui passaient les eczémas, le feu. En fait, ils faisaient de la magie. Parce qu'ils se permettaient d'avoir des prières où il y avait le nom de Dieu, aussi la Sainte Vierge, et ça marchait à tous les coups. Donc on met Dieu à notre service, et vous comprenez bien que c'est plus Dieu qui répond. Il y en a un qui se frotte les pattes quand vous faites des prières comme ça, et quand vous allez voir les guérisseurs. Alors, les idoles, est-ce que j'ai des idoles? L'idole, si vous voulez, si je reprends le catéchisme de l'Église catholique, ça va consister, l'idolâtrie, à diviniser ce qui n'est pas Dieu. On a compris qu'on va être avec Dieu tout le temps, d'accord? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Ce n'est pas seulement la petite prière le matin, la petite prière le soir, et puis bon, non, on vit avec Dieu. On est amoureux de Dieu, vous voyez? Quand on est amoureux, c'est une obsession. Toujours avec la personne aimée. Bon, avec Dieu, c'est pareil. On est avec Dieu, quoi. Voilà. Alors, avec les idoles, ça nous hante. Et on a très envie d'allumer la télé. On a très envie de voir Facebook ou autre chose sur nos portables. Et on va se laisser piéger. Voilà. Donc, les idoles modernes, c'est bien sûr l'argent et tout. Ça peut être le sport. Quand j'étais au Sable d'Olonne, on m'a offert une carte pour aller au gymnase club, vous savez. Bon, j'ai tenu 3 semaines quand même. Mais après, j'ai préféré aller à la piscine du Remblai. On voit les mouettes, c'est plus agréable. Mais là, j'étais quand même un peu affolé de voir surtout les dames, enfin il y a aussi certains messieurs qui passent leur retraite à faire tous les jours des exercices, machin, machin. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, d'accord, mais ça peut devenir une idolâtrie. Maintenant, je trouve que le gymnase club, c'est super, bon, pas de problème. Mais comment on se comporte? Est-ce que le sport devient mon idole? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Vous pouvez faire du sport le dimanche avec Dieu, courir avec Dieu. Je ne sais plus ce qu'il me racontait cette histoire, que en fait, c'était un monsieur, bon, sa femme était hyper catho, lui ça l'énervait un peu, donc quand un dimanche, il était sur une route de campagne, parce qu'il allait se promener, et puis il y a quelqu'un qui l'arrête, et qui lui dit, mais on est quel jour aujourd'hui? Alors, il a fait comme s'il ne comprenait pas, hein, le pauvre gars. Hein. Quel jour? On est dimanche. Quoi? On est dimanche. Et la personne a disparu. Vous n'êtes pas à la messe? Il y a la messe, non? Et ah, c'est très drôle, parce que Dieu a voulu faire un petit miracle comme ça pour convertir ce monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Alors, les idoles. Et voilà. Dans l'idolâtrie, vous avez évidemment les voyants. Ça ne vous arrive jamais d'aller voir des voyants, j'espère, pour vous faire prédire l'avenir. Si vous allez voir quelqu'un qui vous prédit l'avenir, c'est comme si vous jetiez un sort. Vous vous jetez un sort à vous-même. Est-ce que vous en êtes convaincu? Je me rappelle que quand... Vous savez, j'étais au Sable d'Olonne avant. Il y avait le salon de la voyance. Avant, j'étais en habit et tout ça. On a été avec des frères et des sœurs. On s'est mis en civil. Puis on a été au salon de la voyance. Avec du sel baigné, exorcisé. Et puis on a pris le chapelet en se promenant. Là. C'était très drôle. Bon. Les voyants. Les parapsychologues. C'est le nom moderne pour dire le sorcier. Jeter un sort à une personne... Il ne faut pas forcément aller en Afrique, hein, pour ça, vous en avez des parapsychologues chez nous. Des magnétiseurs. Bon, d'accord, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais n'allez pas voir les magnétiseurs. On va demander à une amie, là, bientôt, j'espère, de nous faire son témoignage. On a plusieurs amis qui étaient guérisseurs et magnétiseurs. Il y en a un qui est en train d'écrire un livre sur son cheminement et qui a accepté de quitter sa profession. Il était connu mondialement, mais je ne vous raconte pas l'exorcisme qu'il a dû avoir. Il était comme la langue sortie par terre, c'était un peu haut en couleur. Parce qu'en fait, généralement, le démon vous laisse tranquille tant que vous continuez à exercer vos dons. Sauf qu'il y a quand même quelques anomalies, à un moment où vous les voyez, ou pas. Mais le jour où vous décidez de tout arrêter, là, vous avez des ennuis. J'ai connu un guérisseur, il faisait gratuit, hein, il était directeur d'usine. Et en fait, il était jeté hors de son lit par une force invisible quand il a décidé d'arrêter. Donc, n'allez pas voir les guérisseurs, les magnétiseurs et tout ce monde-là. Donc, et tout ce qui est, évidemment, la superstition, les horoscopes, on porte des porte-bonheurs. Alors, attention, est-ce que vous portez? Au Sable d'Olonne, on allait jeter des amulettes au bout de l'estacade. Les gens, ils pêchent là-bas. Et hop, dans la mer. Débarrassons-nous de nos porte-bonheurs. Si vous avez des fers à cheval chez vous, hein, ça porte bonheur. Dehors, n'adhérez pas à l'idolâtrie, parce que ce sont des liens avec les puissances des ténèbres. Ne faites pas de compromis. On est 100% pour Dieu. Voilà. Et puis, évidemment, toute forme de divination, donc. Hein, voilà. Et toute puissance occulte, y compris pour avoir une meilleure santé. C'est vrai que ça marche, hein, aller voir celui qui passe le feu, ça marche. Oui. Sauf que ça peut revenir ailleurs. En général, c'est un mal qui se déplace. Bon, je raconte toujours mon histoire. Bon, tant pis, hein, encore une fois. Une dame qui avait plein d'eczéma et la médecine ne pouvait rien pour elle. Ça faisait longtemps qu'elle avait de l'eczéma. Et le guérisseur, en Vendée, on les appelle les traiteurs. Elle va voir le traiteur et ça marche. Waouh. Sauf qu'elle était bonne chrétienne, entre guillemets, donc elle va à l'adoration l'après-midi, elle dit à Jésus, si c'est pas toi, fais-le moi savoir. Tout l'eczéma est revenu. Immédiatement. Avis aux amateurs. Ouais. Bon. Très bien. Vous voyez, il y a pas mal à dire sur les 10 commandements. Oh, je crois qu'on n'arrivera pas à tout faire aujourd'hui. On va faire le deuxième. Allez, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Exode 20, verset 7. Quel est le respect, mon respect de Dieu aujourd'hui? Alors, la question à se poser, mais est-ce que j'ai le sens du sacré? Vous voyez, il y a des choses qu'il faut qu'on retrouve et qu'on a perdu, me semble-t-il, dans nos églises déchristianisées. Lorsque je passe devant un tabernacle, qu'est-ce que je fais normalement? L'église nous dit, devant le tabernacle, qu'est-ce qu'on fait? Genuflexion. Quand on a des problèmes d'arthrose, bon, on fait quelque chose quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Devant le Saint-Sacrement, normalement, c'est les deux genoux à terre. Les deux genoux par terre. Bon, ça, c'est des usages, on est d'accord. Soyons libres. Sauf que, si nous avons perdu le sens du sacré, nos communions elles-mêmes risquent d'être des communions blasphématoires. Comment est-ce que je reçois la Sainte Communion ? Vous voyez, il y a deux façons de recevoir la communion qui est permise par l'Église. La façon ordinaire, contrairement à ce que nous savons, nous pensons, n'est pas de communier dans la main. Communion dans la main est la façon extraordinaire, mais elle est permise par l'Église, normalement à titre exceptionnel. Mais ce qu'on va faire, comme dit Saint Cyril de Jérusalem, il me semble, notre main sera un trône pour Dieu. Donc nos deux mains, on les met très haut et on communie devant le prêtre. On ne retourne pas à sa place avec Jésus et puis qu'on mange comme un petit gâteau. Vous voyez, on n'est pas loin du blasphème. Et ça, c'est un péché grave. Parce que vous savez que le blasphème est utilisé dans les messes noires. Donc, vous allez me dire, j'exagère, on n'en est pas là, quand même. Mais si nous savions, vous savez, ceux qui ont des grâces particulières par rapport à l'Eucharistie, ils voient Jésus lui-même dans l'hostie. Parfois, c'est un morceau de chair et on a vu que c'était un morceau de cœur. Donc, si je reçois Jésus lui-même et son cœur, ça ne va pas être n'importe comment, vous voyez. Comment est-ce que je reçois Jésus? Le sens du sacré. Alors c'est vrai que c'est un peu incompréhensible de voir comme on a enlevé les prie-dieu dans pas mal d'églises. Je sais qu'au Carmel de Lisieux, j'ai passé 5 ans à Lisieux. Bon, à un moment, ils ont enlevé tous les prie-dieu. J'en ai demandé pourquoi, ils m'ont dit c'est à cause du ménage. Je ne sais pas si. Enfin, manque de peau, il y a quand même pas mal de gens maintenant qui ont plus le sens du sacré. Donc, en plein milieu de la messe, on entend c'est le bruit des chaises, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à genoux, alléluia. Mais je ne suis pas en train de faire un espèce de procès à ceux qui ne se mettent pas à genoux, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu voit les cœurs. C'est pas ça. C'est retrouvons le sens du sacré, parce que sinon nous sommes dans le péché du blasphème. C'est le deuxième commandement. Et donc l'autre façon de communier, c'est dans la bouche, oui. Mais bon, que notre cœur soit là. Voilà. Est-ce qu'il m'arrive de manquer d'adoration et de respect dans l'Église? Moi, j'ai repris des bons paroissiens, mais ce n'était pas de leur faute. Quand je suis arrivé dans l'Église, ils étaient en train de discuter sur le déroulement de la messe, et tous les deux accoudés sur l'autel. D'accord? En train de discuter, je leur dis « Ah, stop !» Bon. On met un peu d'humour, quoi, ils m'ont pardonné, enfin, c'est de bonne guerre, quoi. Mais en fait, on ne lâchera jamais expliqué. Comme ceux qui vont au tabernacle pour voir combien il y a d'hosties. C'est comme s'ils ouvraient une armoire. Enfin, c'est triste. Donc un laïc ne peut pas aller voir dans le tabernacle. Sauf si le prêtre lui en demande explicitement, lui donne l'autorisation, mais ça sera au coup par coup. Sinon, il faut qu'il soit acolyte. Et l'acolytat, ça se donne en présence de l'évêque. Et ça, on ne le sait pas dans l'Église de France. Tous ceux qui donnent la communion d'une façon habituelle, normalement, ils devraient être institués acolytes. Comme ceux qui font la lecture pendant la messe, si c'est habituel, ils doivent être institués lecteurs. Alors retrouvons ce sens. Je sais que dans la paroisse de certains de nos amis à Nantes, ceux qui font les lectures, c'est un groupe qui est pressenti avant et on leur apprend à lire et à proclamer la parole de Dieu. C'est pas n'importe quoi quand même. Sinon, on peut être effectivement, sans le vouloir, dans le péché contre le deuxième commandement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis quand on distribue la communion, c'est pas rien. Alors, quand j'étais en Bretagne, je passais aussi dans le diocèse de Vannes, il y avait une vierge consacrée qui pouvait distribuer la communion, mais le curé lui demandait de mettre d'abord une aube. Elle ne pouvait pas distribuer la communion comme ça. Bon, enfin, voilà, c'est des moyens. On ne va pas être formel, formaliste, ne vous inquiétez pas, mais on a besoin de retrouver le sens du sacré. Voilà. Alors, attention aux jurons que nous utilisons, où il y a le nom de Dieu. On ne le sait pas forcément. Mais quand vous invoquez le sang, par exemple, je ne vais pas dire quelque chose avec le sang, c'est le sang de Jésus. Bon sang. Ne dites jamais ça. Parce que le bon sang, on sait ce que c'est. On ne va pas le mettre comme juron, c'est un blasphème. Tu ne jureras pas le nom de Dieu. Vain Dieu. Bon. Vous voyez, ce genre de truc. Stop. Ayons conscience que nos paroles sont importantes. On ne va pas se laisser entraîner dans des paroles qui sont en fait des blasphèmes. Et éventuellement, là ce sera plus grave évidemment, si on se met dans des paroles pas très gentilles, directes envers Dieu, surtout quand il nous arrive des soucis dans nos vies. Attention. Maintenant, on a le droit de crier vers Dieu, bien sûr. Hein, je ne suis pas en train de dire autre chose, là. Oui, on peut crier vers Dieu des profondeurs, hein, notre souffrance et tout ça. Mais attention de ne pas que ça ne se transforme pas en révolte contre Dieu. Et on va juste parler du troisième commandement. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Voilà. Alors, vous savez que l'Église nous demande de participer à la messe les dimanches et aussi les jours de fête. trouver ça donc dans le catéchisme, dans le droit canon. Alors, le catéchisme nous dit que ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave. Alors, évidemment, on ne va pas aussi vivre ça d'une façon formelle. Mais si vous dites « Non, je ne peux pas aller à la messe parce que je reçois mes petits-enfants », j'ai entendu ça. Bah, tu te débrouilles, quoi. Tu fais ta cuisine la veille, non? Enfin, bon, je sais pas, il y a des solutions. Bon, au pire, hein, tu prends ta voiture. Il y a des messes à Pau, le soir, à Bayonne, bon, enfin, on est entre les deux, ça va. Bon. Alors, si jamais vous êtes dans une impossibilité d'aller à la messe parce que vous êtes malade, parce que, franchement, aller à la messe, ça fait 300 km, c'est impossible, eh bien, vous allez aménager un temps convenable, seul ou en famille, pour prier. L'idée, c'est que le dimanche, premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection, c'est le huitième jour, Dieu rassemble son Église. Et vous vous rappelez du commandement sur le septième jour, Dieu se repose de tout le travail qu'il a fait. Se repose, c'est un mystère d'amour. Nous sommes faits pour le septième jour. Et le huitième, qui est la résurrection. Donc en fait, c'est tout le week-end qui est intéressant. Le samedi, on se repose en Dieu. C'est le cantique des cantiques. Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, qui me baise des baisers de sa bouche. Ça, c'est le samedi. Et c'est un vrai repos, parce que vous avez beau, en fait, dormir 10 heures, 12 heures, si vous n'avez pas la paix intérieure, vous ne serez pas reposé. Le vrai repos, on le trouve en Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau. Et moi, je vous donnerai le repos, je vous soulagerai. Vous voyez, Matthieu 11. Voilà. Alors, ce souci de vivre le dimanche, mais comme un temps qui est consacré. Alors le dimanche, oui, on va à la messe, mais il reste combien d'heures à se sanctifier? La messe dure une heure, d'accord. Donc il reste, en toute logique, combien d'heures à se sanctifier? 23 heures. Alors, vous voyez, c'est magnifique, parce qu'en fait, c'est Dieu qui va occuper tout l'espace là, avec la grâce de sa résurrection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le dimanche? On a envie d'aller le proclamer aux autres, de donner de la joie aux autres, d'aller voir nos familles, les plus pauvres, ceux qui sont seuls. C'est ça le dimanche. Alors attention à ce que nous faisons le dimanche, les travaux du dimanche. Bon, si on peut passer l'aspirateur un autre jour, c'est mieux.
Aller faire les courses.
Aller faire les courses aussi, si vous pouvez le faire un autre jour que le dimanche. Parce que, quelle grâce de commencer le dimanche, dès le matin, dire « Seigneur, cette journée, elle t'est consacrée. Quel repos !» Mais si vous y mettez votre travail, etc., vous cassez quelque chose. Vous cassez l'ambiance, quoi. Trop dommage. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là, parce que on a déjà fait une heure. Donc, les prochaines fois, la prochaine fois, on verra les autres commandements. Mais tout ça, c'est pas pour, évidemment, nous culpabiliser, hein, on est d'accord. C'est pour que nous soyons plus en vérité devant Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme mexicaine qui s'appelle Catalina.
C'est lui.
Hein, et qui a des révélations sur ce qui se passe à la messe. Et puis, elle raconte que, bon, un jour, elle s'était confessée, et puis le lendemain, c'était le dimanche. Donc, elle ne s'est pas trop pressée, elle était en retard. Et puis, elle s'est dit, bon, c'est pas grave, si je loupe le Kyrie, c'est pas grave. Et la Sainte Vierge lui a listé tous les péchés qu'elle avait faits depuis la veille au soir. Ça l'a calmée, quoi. Bon, parce que en fait, derrière notre péché, il y a aussi les racines de péché, et c'est celle-là que nous allons en confesser aussi. Parce que Dieu veut nous sauver. Il est venu pour nous sauver, pas pour nous accuser, pas pour nous, voyez, pour nous condamner, mais vraiment pour nous sauver. Il nous tire des grandes eaux, on a chanté tout à l'heure.